Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous et bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, Jean-Louis Guépy, Pierre Forest et Éric Figuère. Bonsoir messieurs.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, du golf avec le sprint final de la saison, du rugby avec le top 14 et le rugby championship, et enfin du football avec un retour sur la première journée de la Ligue des Champions et la cinquième journée de Ligue 1. Jean-Louis Guépy, on va commencer avec vous et avec le golf. On arrive dans les derniers tournois de la saison. La plupart des joueurs européens sont en Europe avec comme enjeu la carte finale et les places sur le PGA Tour de la saison prochaine. Alors avant de commencer les résultats, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la carte finale et, le PGA Tour ?
Alors le PGA Tour, c'est le grand circuit américain qui vient de se terminer par une belle première place de Scheffler à la FedEx Cup. Donc la saison américaine est terminée, même s'il y a des joueurs européens. Aujourd'hui, tous ces joueurs européens sont revenus en Europe pour boucler la saison européenne. Alors pour eux, il n'y a pas de problème de qualification puisqu'ils seront de toute façon dans les 115 premiers du classement. Mais on va dire pour un joueur lambda ou pour un joueur qui vient de monter du Challenge Tour, finir dans les 115 premiers, c'est très important pour lui. Et il y a tous les joueurs français qui nous intéressent, qui sont dans le coup pour soit gratter un top 15, un top 10 des places du PGA Tour pour monter pour 2025. Il y a aussi la qualification pour la grande finale à Dubaï. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux sur les 9 épreuves qui restent.
Ok, donc on a aujourd'hui Billy Horschel qui a remporté le BMW PGA Championship près de Londres devant Rory McIlroy. La deuxième défaite de deuxième place de McIlroy en une semaine après sa deuxième place à l'Irish Open. Un petit peu malchanceux quand même McIlroy ou maladroit?
Alors, quand on voit le niveau, il est troisième mondial, hein, quand on voit son niveau de talent, on a l'impression qu'il ne joue pas bien. Et à l'arrivée, il est second, il est troisième. Enfin, on ne voit pas du grand McIlroy, mais il est toujours placé. Et c'est vrai que si on revient sur la semaine dernière, sur l'Open d'Irlande, bon, c'est un petit peu lui qui perd le tournoi. Il fait une faute au 17 qu'il n'a pas l'habitude de faire. Mais là, cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression que c'est Horschel qui est allé chercher le tournoi.
Qui est allé chercher au play-off.
Voilà. Donc, McIlroy en demi-teinte, mais un demi-McIlroy reste un sacré joueur.
Éric Figuère, vous avez suivi, bien évidemment, ces deux semaines de tournoi.
Bien évidemment, mais on est forcément beaucoup plus exigeant avec ce genre de joueur. Hein, de la même manière au tennis, au golf, les meilleurs sont très attendus. Effectivement, comme le dit très, très justement Jean-Louis, un McIlroy, en ne jouant pas très bien, comme un Scottie Scheffler aujourd'hui, en ne jouant pas très bien, et bien, ça fait un top 3, un top 5. Et oui, il passe deux fois coup sur coup. Et puis, il a aussi raté l'US Open qu'il a un petit peu donné. Alors, c'est toujours difficile de dire ça, parce qu'il y a quand même des joueurs qui font le nécessaire, qui font ce qu'il faut pour aller chercher ses victoires. Mais il y en a toujours, effectivement, un ou deux dans le tournoi qui, malheureusement, laissent des plumes en route. Alors, on se focalise souvent sur les derniers trous du dernier tour. Mais en fait, Rory McIlroy, pour ne parler que de lui, laisse beaucoup de coups en route, et notamment au putting. C'est ce qui lui coûte, effectivement, très très cher. Et il fait comme la plupart, et Jean-Louis ne me démentira pas, ça lui arrive de rater des coups aussi, dans des moments forcément qui sont plus difficiles. C'est normal, mais ça, c'est le lot de tous les golfeurs. Hein. C'est ce qui est bien aussi dans cette discipline, c'est qu'on vit tous la même chose. Alors, évidemment, à des degrés divers, bien sûr. Mais non, ça reste un des deux ou trois joueurs les plus forts du monde. C'est un joueur qu'on a envie de voir, qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de regarder. La plupart, il est adulé partout. Il est adulé en Europe, il est adulé aux États-Unis, ce qui n'est pas une mince affaire. Hein. Les Américains sont très chauvins. Hormis pendant la Ryder Cup où il est détesté, mais il est détesté comme tous les Européens, pardon. Mais sinon, c'est juste une superstar. Il ne fait pas que jouer au golf, il s'occupe aussi des intérêts des joueurs. Donc ça, c'est fabuleux. Et puis, les golfeurs, tous les sportifs, hein, mais les golfeurs sont avant tout des hommes. Et sur le parcours, c'est un sport, je le répète encore une fois, et là encore une fois, Jean-Louis ne me démentira pas, c'est un sport tellement difficile, tellement compliqué, tellement complexe, que il passe de temps en temps un petit peu au travers, mais quand il passe au travers, il finit deuxième.
Voilà, donc ça plairait à pas mal de joueurs, je pense.
Je le pense.
Donc on peut revenir un petit peu sur Horschel et sa victoire. Jean-Louis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Horschel? Pas forcément très connu.
Horschel, il a gagné en début d'année sur le circuit américain, dans un petit tournoi, je ne m'en souviens plus le nom, mais il a gagné. C'est la deuxième fois qu'il gagne le PGA Championship. Et c'est quelqu'un c'est un Américain qui adore venir jouer en Europe. Et donc ça, merci à lui, parce que les Américains, ils ont plutôt tendance à rester chez eux. Et c'est quelqu'un qui est très physique, super attitude, très positif, toujours un discours très encourageant vis-à-vis de ses partenaires. Et, enfin, c'est un vrai sportif, et en tous les cas, il est très apprécié aussi en Angleterre.
Et supporter d'ailleurs de West Ham en Angleterre, il porte fièrement les couleurs du club sur son sac de golf quand il vient en Europe.
Les couleurs des Hammers. On va s'intéresser à nos golfeurs français. On a Antoine Rosner et Hugo Cousseau qui font 7e à moins 16 sur ce tournoi. Une belle performance.
Bien sûr. Et voilà, c'est des joueurs qui ont besoin des points. C'est pas, la ligne n'est pas encore tirée, mais il reste 7 belles épreuves derrière pour soit se qualifier pour la finale du DP World Tour, soit pour le circuit américain pour Rosner. Il y a Langasque qui est 15e aussi au classement européen, qui est dans les points potentiels de la carte américaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis un an, et c'est comme ça que Mathieu Pavant a réussi à se qualifier, il y a tous les ans 10 joueurs européens qui montent vers les États-Unis, chose qui n'existait pas avant. C'était un circuit très fermé, c'était très difficile pour un joueur non américain de monter sur ce circuit. Et aujourd'hui, les portes sont un peu plus ouvertes. Les cartes ont un petit peu été rebattues depuis l'arrivée du fameux circuit dissident, le Live Tour, qui est plus un circuit, on va dire, de mercenaires et de...
Absolument.
Circuit de mercenaires et exhibition, on va dire. Voilà. C'est le sport, est, à mon sens, et Eric aussi partage, je comprends son avis, le sport est en second plan.
Et il faut préciser d'ailleurs aussi que ce n'est pas les 10 premiers du classement de l'année qui se qualifient, puisqu'en fait, ceux qui sont déjà qualifiés pour le PGA Tour, eux ne rentrent pas dans ce classement, même s'ils sont effectivement dans les 10 premiers. Et donc, ça ouvre un petit peu plus, effectivement, le champ des possibles pour tous les joueurs qui sont derrière, puisqu'une 15e place, souvent, peut leur permettre de rejoindre le plus grand des circuits, celui auquel aspirent tous les joueurs européens, bien évidemment, et internationaux.
Alors on a aussi un petit peu du moins bon cette semaine avec Mathieu Pavon justement et Victor Pérez qui sont à moins 7 et à moins 5, un peu en difficulté.
Ouais, je c'est un peu dur là Olivier, je pense qu'ils sont dans un tournoi de chauffe pour eux, c'est de revenir en Europe, c'est important de...
La transition est difficile.
Voilà, il faut se réhabituer à l'Europe. Le gazon n'est pas le même qu'en Amérique. Il ne faut pas oublier que Pérez et Pavon jouent aux États-Unis. Ils ont un tournoi la semaine prochaine où ils se sentent à l'aise. Ils ont toujours très bien joué tous les deux. Mathieu est defending champion, c'est l'Open d'Espagne à Madrid, Club des Campos. Donc, je vous dis, il reste une grosse série de compétitions. Et c'est le grand sprint européen pour tous ces joueurs, pour remonter dans le classement européen et prendre encore quelques billets aussi.
Et pour ces deux joueurs, il ne faut pas oublier que là aussi, c'est comme tout à l'heure pour Rory McIlroy, on est très exigeant avec eux, puisqu'ils forcément font partie maintenant des meilleurs mondiaux, et surtout Mathieu Pavon, un petit peu plus que Victor Pérez, même s'il n'est pas très très loin. Donc c'est normal, maintenant on attend beaucoup. Il nous a tellement montré cette année dans les tournois du Grand Chelem, dans les tournois importants, qu'il avait le niveau des meilleurs mondiaux. Donc bien évidemment, on attend. Mais encore une fois, le golf, c'est très difficile. Il n'est pas McIlroy, Schuffler qui veut. Et la plupart de tous les autres joueurs, à part ces deux-là, en réalité, tous les autres joueurs ont des périodes ou des moments ou des tournois de creux. C'est tout à fait normal. Donc voilà, donc c'est pas un mauvais tournoi. Effectivement, on attend un petit peu plus de lui. Mais, et puis c'est sa première saison sur le sol américain. Il a beaucoup donné, avec quelques voyages aussi, même si les meilleurs ont l'habitude effectivement de faire ça. Donc il ne faut pas s'inquiéter outre mesure.
Jean-Luc Guépy, on a une phase encore, donc vous l'avez dit, de 7 tournois. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour les Français particulièrement sur ces 7 tournois? Quels sont les Français qu'on attend? Alors, et que le grand public connaît peut-être un peu moins?
Alors Romain Langasque, il est connu, il joue sa carte américaine, donc il est dans le coup, il ne faut pas qu'il cafouille entre guillemets. Il lui reste 7 ou 8 épreuves pour confirmer sa position. Pour l'instant il est dans les points. Et il y a donc un certain nombre de Français qui sont dans la carte de l'année. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous finissez au-delà de la 115e place de l'année et que vous n'êtes pas vainqueur de tournoi depuis 2 ans, vous revenez sur le Challenge Tour. C'est ça la difficulté de ce sport. Il n'y a pas de sécurité sociale du golfeur. Et donc vous ne pouvez jouer dans ces grandes épreuves que sur invitation, donc ça change tout. Donc voilà, il y a 14 joueurs ou 15 joueurs français qui sont dans le coup et qui comprennent exactement ce que je dis, c'est-à-dire qu'ils jouent pour leur année 2025, là, le sprint final.
Ok, eh bien on va leur souhaiter bonne chance et on va suivre avec attention leur performance et on en reparlera sur ce plateau. On va enchaîner avec le rugby. Pierre Forest, avant de s'intéresser au top 14, on va quand même revenir sur les deux gros matchs de ce rugby championship de ce week-end, avec l'exploit, je pense qu'on peut utiliser ce mot, des Argentins qui ont battu les champions du monde, les doubles champions du monde sud-africains, d'un petit point. Et comme on l'a dit en préambule de cette émission, pour une fois, les Sud-Africains ont perdu d'un point et pas gagné d'un point.
Oui, on peut dire ça comme ça, mais c'est une surprise, oui et non. C'est une surprise de constater que les Argentins, ils ont battu les champions du monde en titre. Mais il ne faut pas oublier que les Argentins étaient déjà allés gagner en Nouvelle-Zélande, avaient battu les Blacks. Et aussi avaient été gagnés en Australie.
Ils avaient passé 67 points aux Australiens.
Ils avaient les Wallabies, comme on dit. Donc il n'y a rien de surprenant. Il y a juste que c'est la formule qui a changé. Initialement, c'était une formule à 4 avec 3 matchs chaque équipe. En match aller-retour, ça faisait 6 matchs. Là, on a rajouté un dernier round avec match aller-retour entre le premier et le deuxième et entre le troisième et le quatrième. Bon, cette année, ça tombe bien. Le troisième et le quatrième, c'est la Nouvelle-Zélande qui finit troisième avec les Australiens. C'est la Bledisloe Cup, hein, c'est le fameux trophée entre les deux
qui a été remporté par les deux
frères ennemis du Pacifique. Et puis, comble, les Sud-Africains ont été invaincus jusqu'à ce week-end. Et puis, ils sont obligés encore de rejouer avec cette défaite en Argentine contre les Argentins pour pouvoir essayer de remporter, pour une fois, je crois que ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas remporté la Championship. Ou même plus.
C'est ça, ça fait un peu plus.
Alors, l'Argentine, c'est pas surprenant dans le sens où ils ont changé d'encadrement. Conte Pumi, qu'on connaît bien dans le top 14, puis il a entraîné au Stade français. Et puis, il y a quand même des joueurs argentins du top 14 bien connus, notamment les deux Toulousains, Malia et Choco Barres, hein, qui sont dans cette équipe-là. Il y a Scalvi qui joue aussi à La Rochelle, donc il y a quand même des noms qui font que c'est une sélection qui est quand même redoutable chez elle. Et là, on peut peut-être mettre une parenthèse sur la victoire de l'équipe de France, dernièrement, qui a fait une tournée en Argentine. Certes, a gagné un test sur deux, mais aller gagner un test en Argentine, c'est jamais facile. Mais il faut dire aussi que les Sud-Africains, ils ont bouffé la feuille de match, comme on dit, avec le numéro 10, l'ouvreur, qui est rentré en demi-temps, Liboc, qui a une pénalité assez facile, perte d'un point alors qu'il avait les 3 points à portée de main, de pied plutôt. Donc voilà. Mais ça se joue à très peu. Donc on verra. Dernier round, week-end prochain.
Voilà, une petite chance pour les Argentins de gagner finalement ce rugby championship, même s'il faudrait qu'ils aient le bonus offensif.
Petite chance pour eux, parce que je pense que les Sud-Af, chez eux, à domicile, ils vont être revanchards et ils n'aiment pas trop perdre.
Donc on va suivre ça avec attention. Dans l'autre rencontre, donc les All Blacks se sont imposés de justesse sur les Australiens à Sydney,
oui.
31-28.
Mais à leur corps défendant, on va dire qu'ils ont joué. Il y a 3 essais, évidemment, 3 essais refusés. Non pas qu'ils étaient à juste titre, mais ça démontre aussi la supériorité dans le jeu des All Blacks. Et puis surtout, ils ont joué à 13 sur les 5-10 dernières minutes, à 13 contre 15. Donc les Blacks sont vraiment au-dessus. Même là aussi, ils ont changé d'encadrement. Ils ont un nouvel entraîneur, une nouvelle équipe, de nouveaux joueurs qu'ils essayent aussi. Et puis même les Australiens, ils sont première année post-Coupe du Monde, ils changent l'encadrement, ils essayent des jeunes, etc. Donc à voir dans deux.
Voilà.
On a quand même
retrouvé par moment des All Blacks qui déploient du jeu. On l'a vu notamment sur les quatre essais en première mi-temps. On a retrouvé du jeu qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps chez les
Blacks. C'est vrai qu'ils ont un jeu beaucoup plus rapide, avec des joueurs très rapides, très légers. Mais par contre, ils ont perdu en intensité, en volume, en masse devant. Hein, on n'a plus les grandes deuxième ligne, White Lock, etc. Là, c'est plutôt des coureurs sauteurs dans le paquet d'avant. On le voit quand ils rentrent, par exemple, ils jouent contre l'Afrique du Sud, ils souffrent beaucoup.
Ils souffrent sur la conquête et sur le rugby de combat, absolument. Mais la défense, en revanche, pour finir avec le All Black, n'est pas encore revenu au niveau. Ils prennent encore 3 essais, 4 essais même. Donc, c'est pas encore
tout à fait bien annulé avec les nouvelles méthodes d'entraînement, certainement. Puis un nouveau jeu qui veut l'instaurer, le nouveau coach.
On va basculer sur le top 14 avec, sans surprise, Toulouse qui conserve la tête au bout de la troisième journée avec une victoire en demi-teinte sur Montpellier.
Troisième journée sur... il en reste 23 encore, hein, donc le marathon du top 14, on va dire ça comme ça. Comme fait marquant, évidemment, il y a deux victoires à l'extérieur. Donc le stade toulousain qui est allé gagner à Montpellier.
20 à 11.
Facilement. Premier match d'ouverture, ils étaient allés gagner à Vannes. Et Toulon, ce matin, qui, à la surprise générale, a battu le Stade français à domicile.
14-10.
Malgré des conditions de jeu qui étaient vraiment limites, hein, surtout en première mi-temps avec une pluie battante. Et quand on voit le score étriqué 10-14, je crois qu'ils perdent 14-10, le match.
Absolument.
Il y a quand même, là aussi, le Stade français, le demi d'ouverture, qui est un ancien Toulonnais, Carbonel, qui a bouffé la feuille de match avec 3 pénalités faciles, hein, en face des poteaux et qui les met à côté. Ça fait 9 points et quand on regarde au niveau du score, voilà, c'était... Mais bon, c'est une victoire logique des Toulonnais qui se sont mieux comportés, mieux adaptés aux conditions météorologiques que le Stade français lui-même.
Derrière ce leader toulousain, on a l'UBB qui confirme son bon début de saison, hein, en cartonnant le Racing 52-34, 8 essais à 5, 13 essais dans cette rencontre. Une partie spectaculaire à suivre.
Oui, actuellement, c'est l'équipe depuis le début qui produit le meilleur jeu, avec un jeu de trois quarts. Ils ont une ligne de trois quarts internationale, l'équipe de France, avec, là, vous avez dit, 8 essais.
8 essais, il y en a 3 pour Penaud, 3 pour Bielberg.
Il y a 2 triplés, ouais, pour les 2 ailiers. Et quand on regarde, les 2 autres essais, c'est les 2 centres. Donc, non, le centre est Jalibert, à l'ouverture. Donc, il y a vraiment une équipe qui joue le rugby comme on aime, hein, donc ça vaut vraiment le coup. 8 essais, ça vaut le coup de regarder. Et qui plus est, contre non des moines, hein, c'est quand même le Racing 92, hein, qui avec ses joueurs anglais maintenant, un encadrement anglais, avec le demi d'ouverture anglais, avec le Racing, c'est beaucoup... je sais pas comment on appelle ça,
internationalisé,
mais du côté de l'Angleterre, là, ils ont su ce que c'était que le top 14. Pour certains, ils découvraient le top 14. Ce qui est intéressant, c'est la prochaine journée, c'est Toulouse qui va recevoir Bordeaux-Bègles à Toulouse, avec pour les Bordelais, la revanche de la finale du top 14. Hein, donc,
absolument. On a eu aussi donc, ce week-end La Rochelle qui a passé 49 points à Pau, là aussi 8 essais pour les Rochelais.
8 essais aussi, c'est surtout la performance des Palois qui surprend. 2 matchs à l'extérieur, ils ont pris 2 avoinés, comme on dit, donc ils ne sont pas très bons à l'extérieur. À domicile, ils ont gagné largement, mais il me semble que c'était contre Bayonne, à domicile, le week-end dernier. Mais là, à l'extérieur, c'est les portes ouvertes. Je voudrais juste signaler quand même la surprise du week-end, c'est le promu, Vannes. Le premier Van qui a battu le Lyon, nous, à domicile.
30 à 20, absolument.
Avec, évidemment, les 3 premières victoires du promu sur le top 14, et il faut le souligner. Pour ceux qui pensaient qu'aller au stade de la Rabine pour manger des galettes et boire du
chouchen.
Voilà. Il ferait mieux, pour ceux qui ne sont pas encore allés, il ferait mieux de faire très attention, parce que Van n'a pas du tout l'intention de se laisser compter. Je crois que c'est le week-end dernier, ils ont été prendre un point au Stade français, justement, avec un bonus défensif. Exactement. Et là, c'est 4 points. Donc, ils en sont déjà 5 points.
Et ils n'avaient pas été ridicules la première journée face à Toulouse.
Et contre Toulouse, ils n'avaient pas été ridicules. Donc, aller au stade de la Rabine en bus, hein, puisque les matchs, comme ils se terminent tard, il n'y a plus d'avion. Hein, donc, les équipes préfèrent rentrer chez eux après le match. Il vaut mieux repartir de la Rabine à minuit, 1h du matin, en bus avec une victoire que d'avoir perdu. Et voilà, je pense que avis aux prochains qui vont rendre visite aux Bretons chez eux.
pour être complet sur cette journée de top 14, on dira que Castres a battu Perpignan 27-12 et que ça se complique déjà pour Perpignan avec...
Mais ça, c'était pas utile, ça, de préciser
avec un seul point, je sens une âme perpignanaise.
Alors des fois, quand même, Perpignan, ils jouent leur match à domicile, mais à l'extérieur. Ils jouent à Béziers, notamment, parce que le stade de Perpignan n'est pas prêt. Donc, c'est vrai que un point sur trois journées, ils sont bons derniers.
Ça rappelle trop de mauvais souvenirs, beaucoup trop récents, effectivement. On en parlait il n'y a pas très longtemps.
C'est ça, le syndrome de l'ascenseur.
Au micro, et effectivement, ouais. ça démarre très mal.
Et l'Aviron Bayonnais aussi, qui n'est pas au mieux. Ils sont 13e avant-dernier aussi. Donc, l'Aviron Bayonnais, qui nous a habitués à partir sur les chapeaux de roue et maintenir le nombre de points pour être non pas être dans les 6 premiers pour se qualifier,
éviter au-dessus de la ligne de flottaison. Voilà.
Donc là, partir au bout de 3 journées avec Bayonne et Perpignan, il va falloir
très vite une victoire pour enclencher la première et prendre un petit peu d'élan, parce que évidemment plus le temps passe, c'est une lapalissade que de le dire, mais s'il y a encore 2 ou 3 mauvais résultats, c'est-à-dire 2 ou 3 défaites, Pour les 4 ou 5 clubs d'ailleurs, hein, qui sont en bas, plus particulièrement Perpignan, puisqu'ils n'ont pas encore de victoire et qu'ils sont derniers, mais les clubs franciliens sont en difficulté. Il faut vite engranger des points, parce que la saison va être très difficile. Et Perpignan l'a trop connu ces dernières saisons, donc je suis un petit peu inquiet.
Stade Toulousain, qui est devant double champion de France et d'Europe, qui fait tourner son effectif. 2-3 matchs, 3 victoires.
De manière très large en plus.
Hein. Oui, Antoine Dupont ne joue toujours pas.
Voilà. Antoine Dupont ne joue pas. Là, ils se permettent de faire tourner les effectifs avec Jelanche, qui revient de blessure et qui a fait un petit peu une partie fin de deuxième mi-temps. Beato Movaca aussi, qui est relevé d'une entorse et qui est rentré à la fin. Et quand on se permet de laisser Marchand, talonneur de l'équipe de France, dans les tribunes pour regarder le match. Là, on a vu un nouveau joueur, un japonais, qui joue à la mêlée, un demi de mêlée très très bon de l'équipe nationale du Japon, donc qui va certainement être la doublure de Dupont quand il va rentrer.
Sans surprise, on sait que l'effectif toulousain est doublé, voire même triplé,
un peu plus de 60 joueurs salariés, donc ils ont de quoi faire. Hein. Ils attendent évidemment le tournoi destination, puisque c'est le club qui fournit le plus de joueurs en équipe de France. Et puis les Coupes d'Europe.
On va clore cette page rugby, vous l'avez dit, donc en Pierre Foresque, avec le week-end prochain, le derby de la Garonne entre Toulouse et l'UBB.
Lundi matin à 6h.
Voilà, donc à suivre avec attention, ça risque d'être un match spectaculaire. Peut-être que le Stade toulousain ne fera pas autant tourner qu'il a fait tourner ce week-end.
Bon, je pense qu'ils vont mettre déjà la meilleure équipe par rapport à ce qu'ils font tourner là. C'est le premier gros choc, on va dire. Quant à l'UBB qui est parti sur les chapeaux de roue pour effacer certainement la malheureuse finale qu'ils ont produite l'année dernière, mais ça risque d'être un beau match, une belle affiche.
Pas oublier Clermont, qui commence à assimiler la patte Christophe Urios.
Et qui justement a battu l'Aviron Bayonnais.
Voilà, et qui est donc juste derrière Toulouse. Et je pense qu'il va peut-être falloir cette année compter avec eux.
C'est ça, si on fait un petit point sur le haut du classement. Donc Toulouse à 13 points devant 3 équipes, l'UBB, Clermont et Castres à 10 points. On va changer de ballon et passer au football avec cette semaine la première journée de la Ligue des Champions. Et donc sur les 4 clubs français engagés, 3 se sont imposés cette semaine. Et Lille, malheureusement, s'est incliné face au Sporting Lisbonne. Le PSG n'a pas forcément brillé, mais s'est imposé face à Gérone 1-0 en toute fin de match. Mais les faits marquants de cette première journée sont à mettre à l'actif de Monaco, qui a quand même battu le Barça 2-1, et de Brest, qui a battu pour son premier match en Ligue des Champions les Autrichiens du Sturm Graz. Messieurs, vous voulez commenter cette victoire brestoise, Eric Figuère ?
L'an dernier, j'ai tardé à regarder le Stade brestois jouer. Et je voulais d'ailleurs un soir ici même donner mon coup de cœur à Brest, parce que j'avais été complètement bluffé après les avoir vus jouer un football dont on rêve tous. Et ça avait vraiment été une belle découverte. Et le classement, évidemment, à la fin de la saison l'a prouvé. Mais on sait aussi que sur une saison, tout peut très bien se passer, tout peut très bien s'enclencher et obtenir effectivement un très bon classement. Là, il y a bien plus que ça à Brest, avec un manager qui semble être excellent. Eric Roy, pour ne pas le citer. Et ils ont redémarré, certes, un tout petit peu dans le dur en championnat, mais ils ont été à la hauteur, bien plus qu'à la hauteur, puisque leur première participation en Champions League, ils gagnent leur premier match. Donc, total respect. Ça prouve que c'est un club qui fonctionne bien, qui est bien organisé, qui est bien géré et sans doute avec de très bonnes mentalités. Alors ça ne suffit pas toujours, hein, bien sûr, hein, mais ça, c'est vraiment une très belle victoire. Non, c'est vraiment une très belle équipe, j'espère. Évidemment qu'avec cette nouvelle formule, dans les matchs que chaque club va avoir joué, ils ont des très gros matchs à jouer contre de très grosses équipes.
Ils vont recevoir le grand Real Madrid au Stade du Rougerou à Guingamp, puisqu'ils ne jouent pas, pas chez eux.
Ça ne veut pas dire pour autant que la défaite est assurée, mais les choses vont être forcément beaucoup plus compliquées. Mais ils auront aussi des matchs du niveau de celui qu'ils ont joué en première partie. Donc ça promet plein de bonnes choses. Donc ils sont à la hauteur, c'est très bien. Monaco contre Barcelone, même si ce n'est plus le grand Barcelone, ils montrent quand même en championnat Barcelone qu'ils sont très bons cette année, puisqu'ils sont invaincus. Ils ont encore passé 4 ou 5 buts ce week-end, donc c'est pas rien. C'est pas une petite victoire de Monaco. Et là aussi, Monaco est très bien organisé. Ça fait déjà quelques années, même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur, mais ça fait quelques années que ça tourne bien. Sans en faire trop de bruit, je trouve qu'il y a un club qui est très bien structuré. C'est une très belle équipe. Lille, malheureusement, il en fallait une qui est passée au travers. Concernant Paris, le match est loin d'être mauvais. Je pense qu'ils ont quand même dominé leur adversaire. Gérone n'est pas la première équipe venue plus, mais même si elle est jeune.
Les équipes qui sont en Ligue des Champions ne sont pas là par hasard.
Mais Gérone a fait un très très bon championnat l'année dernière, un petit peu à l'image de Brest, et donc elle continue un peu sur sa lancée. Paris a quand même eu beaucoup d'occasions. Je pense notamment, j'ai cette image qui me revient de Dembélé qui part comme une fusée, qui est donc inarrêtable jusqu'au moment où il a décidé de se faire arrêter. Pas par la police, mais par un défenseur qui a très très bien joué le coup. Mais c'est très symptomatique, même s'il a fait un bon début de saison avec Paris et qu'il a marqué assez régulièrement. Donc c'était positif. Je suis de ceux qui pensent que le PSG sans Mbappé sera meilleur qu'avec Mbappé. Ça, c'est un peu bizarre de dire ça, parce que c'est quand même un des 3 ou 4 meilleurs joueurs du monde, un joueur qui marque 40 ou 45 buts par saison. Ça fait toujours un peu bizarre. Mais une équipe, c'est pas qu'un bon joueur. Alors le paradoxe, c'est que, à mon sens, elle va être meilleure, effectivement, cette équipe. Mais le paradoxe, c'est que malheureusement, il faut quand même un très très bon joueur. Et le plus bel exemple, c'est City, qui a gagné il y a 2 ans la Champions League. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été chercher Erling Haaland. Et le Norvégien qui leur a fait gagner, peut-être pas pour la finale, mais qui leur a fait gagner la Champions League sans aucune discussion. Donc ça va encore être, je pense, un petit peu juste pour cette année. Je suis désolé pour toi, même si moi aussi j'aimerais les voir au plus haut. Mais cette nouvelle formule a l'air très intéressante. Moi, je suis assez optimiste.
Alors pour revenir quelques instants sur Brest, donc on l'a dit, ils jouent pas à Brest, mais ils jouent au Stade du Rougerou à Guingamp, et donc ils ont vraiment toute une région derrière eux. Et l'objectif pour eux, est-ce que c'est pas simplement d'être déjà, ça serait une réussite d'être entre la 9e et la 24e place, qui permet de se qualifier, de jouer un match de barrage pour accéder au 8e de finale.
Objectivement, c'est les classements. Hein. Je pense qu'on ne se trompe pas en disant ça. S'ils se qualifiaient dans les 8 premiers, là, on ne serait plus dans le miracle. Là, ce serait, donc s'ils se qualifient pour un 7e de finale, plutôt un match de barrage, c'est l'objectif. Et c'est l'objectif maintenant qu'ils doivent se fixer, puisqu'ils ont gagné leur premier match. Il n'y a pas de raison de ne pas croire en un exploit, puisque ce serait quand même un exploit.
Bon, la prochaine journée de cette Ligue des Champions aura lieu les 1er et 2 octobre. Arsenal recevra le Paris Saint-Germain, le Dynamo de Zagreb recevra Monaco, Lille recevra le Real Madrid, et Brest se déplacera chez les Autrichiens de Salzbourg.
Ça sera un très bon test pour Paris.
Voilà, on suivra donc ces matchs avec beaucoup d'attention, sachant que quelques équipes ont déjà laissé quelques points en route.
Les Anglais notamment, et Arsenal et Manchester City notamment, mais bon, City jouait contre l'Inter, une défense de fer. Ils avaient battu en finale de la Champions League il y a 2 ans, mais ça reste quand même un redoutable concurrent. Alors là aussi, il ne va pas falloir perdre trop de points en route. Hein, parce que,
avec cette nouvelle formule.
Pour ces équipes-là, il faut se qualifier dans les 8. Hein, un 16e de finale sera très dangereux. Mais bon, on sera vite fixé à la 2e journée pour savoir s'ils ont mis les choses en route.
Allez, on passe sur le week-end de Ligue 1, où le PSG a concédé justement ses premiers points sur la pelouse de Reims. Un match nul, un but partout. avec un effectif qui avait un peu tourné, une équipe de Reims qui est toujours redoutable à domicile, très difficile à bouger. Dembélé est sorti du banc à égaliser pour le PSG. On a Monaco qui continue sur sa lancée de la Ligue des Champions en s'imposant à domicile face au Havre 3-1. Et puis on a surtout un match qui était le match phare de ce week-end, l'Olympico entre Marseille et Lyon. Et Marseille réduit à 10 depuis la cinquième minute. Voilà. Et les deux cartons jaunes de Balerdi s'est imposé dans les arrêts de jeu à la 95e minute, 3-2. Pierre Forez, vous qui êtes supporter de l'Olympique de Marseille, ça devait être une belle matinée, non ?
Ah bah, j'ai pas regardé le match parce que j'avais le match de rugby aussi également à regarder, mais j'ai appris, ouais, hein. C'est un exploit de gagner à Lyon, surtout avec un joueur expulsé dès le début du match. Donc oui, ça ne peut faire que du bien. Je vais revenir quand même sur le Paris Saint-Germain. Je ne partage pas tout à fait le fait de dire que le Paris va peut-être mieux jouer ou avoir de meilleurs résultats. Avec son Mbappé en l'occurrence.
C'est pas peut-être qu'il va mieux jouer. Les premières journées, il joue mieux.
En l'occurrence, son Mbappé, mais quand vous enlevez quelqu'un de l'équipe qui met 40 buts, hein, c'est 40 buts par saison, on le voit là, match nul contre Reims, hein, c'est ça. Donc il n'y a plus cette frappe-là qu'il y a, enfin, de pouvoir de marquer. Et puis par contre, il va aller enrichir le Real Madrid qui n'avait pas besoin de ça avec Vinicius, je ne sais pas combien de buts par saison. Mais en plus, Mbappé qui arrive avec 40 buts par saison, c'est un peu se couper les.
Il ne marque des pénalties. Hein,
oui, mais on verra. Non, mais voilà. Buts, donc dire que le Paris va mieux.
L'équipe semble plus équilibrée.
Oui, plus équilibrée, mais il faut
effectivement, sur les matchs importants, il faut le facteur X qui était Mbappé.
Il faut une équipe équilibrée, voilà. Il faut un jeu construit, et il faut, comme je disais tout à l'heure, si tu as bien écouté, pour gagner les plus grands championnats, il faut ce joueur supplémentaire, c'est ce qui aurait dû être Mbappé. Hein, et malheureusement, il n'a pas été pour différentes raisons, et je pense que la dernière saison, c'est probablement pas de sa faute. Voilà, c'est aussi, on pourrait lancer un débat sur le sujet. Voilà, non, c'est très intéressant. Mais on va voir ce que lui va faire au Real. Et puis, mais bon, c'est un grand joueur, donc forcément, il va réussir. Mais on verra pour Paris.
Voilà, donc les...
Mais reparlons de Marseille, quand même.
Reparlons de Marseille, exactement. Quand même réduit à 10 depuis la 6e minute. Donc Balerdi qui fait un non-match, hein, deux cartons jaunes avec totalement justifié en 6 minutes.
Complètement.
Mais derrière, l'équipe s'est mobilisée, a su réagir deux fois. Mener 1-0, elle mène 2-1 même. Et puis, reprise à la 93e minute,
oui.
et qui s'impose, je crois, c'est 17 secondes, ouais. 17 secondes après l'égalisation de Ryan Cherki. Donc, une belle force de caractère quand même. Est-ce que c'est pas un peu l'effet de Zerbi, ça ?
C'est toujours évidemment facile de le dire maintenant, mais on peut penser malgré tout qu'il y est pour quelque chose. Alors, on a souvent vu Marseille, comme quelques clubs français, se faire avoir un petit peu à la fin. Là, pour le coup, Marseille... a changé un petit peu la donne, donc ça c'est très bien. On a maintenant un petit aperçu de ce qu'est De Zerbi et de ce qu'il propose dans sa nouvelle équipe. Hein. On a un petit peu de recul, donc ça semble bien fonctionner. Il a une attitude qui est très intéressante, il propose quelque chose de très intéressant. Après, faut-il encore que les joueurs les suivent. Je suis assez optimiste parce que ce qu'il leur demande, c'est pas de courir et d'être des marathoniens, contrairement à ce que proposaient les autres entraîneurs de l'OM par le passé, ce qui pouvait fonctionner un an sur le fil de rasoir et qui en général s'arrêtait assez rapidement. Là, pour le coup, il y a un petit peu plus que ça, au-delà de la mentalité. Il y a un jeu qui est très intéressant. J'avoue très très honnêtement que même si je suis supporter de l'OM, les joueurs qu'ils ont achetés ne me parlaient pas toujours, voire même m'étaient totalement inconnus.
Bon, le dernier arrivé est connu, hein. Il s'appelle Adrien Rabiot.
Ah oui, alors celui-là, il n'a pas encore joué, effectivement. Pour le coup, alors on connaissait les talents du président Longoria pour aller dénicher, pour faire de très bonnes affaires. Là, il a réussi, pour moi, un coup de maître, parce que Paris l'avait laissé partir. Là, encore une fois, pour d'autres raisons, on pourrait faire un autre débat encore. Donc, c'est bien.
Marseille vivement le prochain classico.
Oui, ça va arriver bientôt, là. Donc, Rabiot va encore faire encore un petit peu plus de bien. On pourrait presque se dire, ils n'en ont peut-être pas besoin, mais on ne peut pas se priver d'un joueur
international
comme Rabiot, international, qui va, dès qu'il aura repris le championnat, très vite reprendre sa place en équipe de France, je le pense. Donc, c'est très, très, très positif.
Donc Marseille et Monaco ont rejoint le PSG en tête de cette Ligue 1 avec 13 points devant Lens à 9 points. On va enchaîner très très vite avec vos coups de cœur, messieurs, puisque c'est déjà la fin de cette émission. Pierre Forest, on va commencer par vous.
Moi, c'est un coup de cœur, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je voudrais bien...
Ça peut être un coup de griffe, effectivement, non, plus, on fait des coups de cœur d'habitude,
en tout cas... Non, en ce moment, on n'a peut-être pas besoin de donner des coups de griffe. je voudrais quand même dédier cette émission, si vous le permettez, si vous en êtes d'accord, le dédier à ceux qui sont bloqués du côté du Mont d'Or, Sud et de IAT, et notamment parce que je sais qu'ils nous écoutent, à nos amis sportifs, hein, ils se reconnaîtront.
Bah, vous pouvez les citer, allez-y. Hein. Guy, enfin, non, citer quelques-uns Eric, en tous les cas.
Eric, Paul, et voilà, donc au moins Eric Guy, Paul Pognéroy qui sont de l'autre côté. Donc il faudrait bien leur dédier cette émission pour eux, puis on aura une pensée pour eux.
Allez. Jean-Luc Guépy.
Petit coup de cœur extra foot, rugby ou golf. J'ai suivi, comme tous les week-ends, quand il y a des sports mécaniques. Je vois que la saison de F1 et de MotoGP est pratiquement relancé.
Passionnante, c'est-à-dire, effectivement.
Passionnante, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude ces derniers temps de voir une certaine routine de résultats. Et aujourd'hui, on voit les McLaren qui reviennent comme des balles. Et,
ça fait du bien, d'ailleurs.
Et Verstappen qui se gratte la tête et qui joue maintenant la montre et qui a changé aussi de discours. Et puis, on a un Marc Marquez en MotoGP qui montre qu'il n'est pas fini et qu'il est surmotivé.
Il est revenu.
C'est ça. Voilà. Il a trouvé une seconde jeunesse.
En fait, on a du beau spectacle, mais pour ça, il faut tenir jusqu'à 11h minuit. Et des fois, j'ai l'œil un peu...
Le Grand Prix Moto, hier soir, était absolument captivant. J'étais en train de m'endormir quand le Grand Prix a commencé et je n'avais plus du tout envie de dormir pendant cette heure de course. C'était absolument fabuleux, avec évidemment des rebondissements, comme toujours en MotoGP. C'est vraiment top.
Éric Figuard, on va terminer avec votre coup de cœur.
Vite fait, le coup de cœur, je m'associe bien sûr à Pierre pour les Mondoriens, c'est une catastrophe, on ne va pas faire plus long, mais j'espère pour eux que ça s'arrêtera le plus vite possible.
Et on espère les revoir rapidement sur
absolument.
Plateau avec nous.
Absolument, et moi j'avais un petit coup de cœur, je reste quand même dans ma discipline de prédilection, c'est-à-dire le golf. J'avais parlé d'une jeune Française, une jeune Calédonienne surtout, il y a une quinzaine de jours ou trois semaines, Ariane Kloss. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'une Néo-Zélandaise. Moi, c'est un pays que j'adore et je voulais mettre en avant Lee Diaco, qui n'est pas une inconnue, hein, puisqu'elle a été numéro 1 mondiale d'origine coréenne, qui ce week-end, ce matin, a gagné son tournoi américain de la semaine avec 5 coups d'avance. C'est assez fabuleux après avoir gagné le British Open et les Jeux Olympiques. Donc c'est une joueuse qui, malheureusement, il est possible qu'elle s'arrête bientôt, comme beaucoup malheureusement de golfeuses à l'approche de la trentaine, de 30-35 ans, parce qu'elles ont envie effectivement de vivre une vie normale. Et c'est vraiment dommage, mais en tous les cas, il faut en parler un petit peu, parce que c'est une très belle golfeuse. C'est une golfeuse qui a une attitude juste magique.
Eh bien, merci à tous les trois, et merci pour ces coups de cœur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine sportive.
Bonsoir à tous. Merci.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire du...